Alors, chers amis, je vais aborder un sujet un peu rabat-joie suite à toute cette louange qui nous a occupés maintenant. C'est vrai que c'est très important, hein, envers et contre tout, de pouvoir louer le Seigneur dans toutes les situations. Mais ce sujet que j'aimerais aborder, c'est un sujet assez grave. Il m'a été dit, en venant ici, donc il y a deux, trois commentaires par rapport à ce qui s'est passé, qui concerne l'actualité toute récente. Ce matin, la première chose que j'ai faite, j'ai pas seulement pris mon café, j'ai allumé la radio. Qu'est-ce que j'ai entendu? Eh bien, que pour la première fois, Israël a été attaqué sur son territoire par trois puissances. L'Iran, le Hezbollah chiite, les Houthis yéménites. Et donc, il y a eu à peu près 200 drones et missiles qui ont été donc lancés sur le territoire d'Israël. Heureusement, ils ont été tous quasiment interceptés. Donc, il y a eu quand même une victime, apparemment. C'est une jeune fille qui n'est pas morte, mais qui est aux soins intensifs. Vous savez, donc, voilà. Et donc, le thème que je voulais aborder, que je vais aborder aujourd'hui, ben, c'est un petit peu... Ça concerne la guerre. Ça concerne... C'est pas très joyeux. J'ai intitulé ce message « Au commencement était la guerre ». Ce que nous dit la Bible sur ses causes et les solutions qu'elle propose. Je me rappellerai toujours d'une citation, d'un commentaire de Billy Graham qui disait que lui, il avait deux sources dans sa vie. C'était l'actualité qu'il mettait toujours en relation avec la Bible. Quelque part, il y a l'actualité avec ses nouvelles. Souvent assez tragique, mais si on met ça en regard avec la parole de Dieu, avec la Bible, quelque part, ben ça nous aide aussi à progresser, puis c'est un petit peu la réflexion que je vais essayer d'avoir avec vous aujourd'hui, voir ce que nous dit la Bible par rapport à ces événements tragiques, qu'est-ce qu'on en fait pour soi, comment est-ce que je fais, comment est-ce que je me situe par rapport à ce genre d'événements. Alors c'est difficile en cette période d'éviter de tomber justement sur ces fameuses nouvelles, donc qui nous renvoie à une triste réalité. Et dans la nuit entre hier et aujourd'hui, donc on a entendu des déflagrations donc sur le sol israélien, ce qu'on peut aussi appeler un peu des bruits de guerre en fait, heureusement sans faire trop de dommages apparemment, mais c'est un bruit qui est de plus en plus difficile à étouffer, qu'on peut essayer sous une couche de bonne conscience qui nous murmure que cela ne nous concerne en rien, qu'on est très loin et que nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe loin de chez nous. Comme antidote, on peut vivre aussi dans sa tour d'ivoire, en se confinant physiquement et mentalement, ou bien on peut éluder la question en se plongeant dans un activisme ou bien dans le divertissement. Mais, pour paraphraser le dicton, chasser la réalité, et elle reviendra au galop, tellement celle-ci reste omniprésente au quotidien. Alors, on va... Un premier texte de circonstance, c'est dans Marc 13, 7, 8... qui concerne ces bruits de guerre. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre, ça c'est important, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura aussi des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Si j'ai intitulé ce message « Au commencement était la guerre », j'ai repris ce titre d'un livre d'un homonyme en fait, qui s'appelle Alain Bauer, qui est un criminologue français qui a donc intitulé ce livre « Au commencement était la guerre » pour nous rappeler que l'histoire de l'humanité avec un grand H ne s'est effectivement pas déroulée sans heurts ni guerres, même si nous avons eu un peu tendance à l'oublier. En Occident, notamment depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et aussi depuis la fin du RSS en 1991, on pensait alors que les valeurs d'un libéralisme et d'un capitalisme triomphant allaient naturellement et progressivement s'exporter dans le reste du monde en y apportant une paix perpétuelle. Le retour à la dure réalité s'est fait sans ménagement lors du déclenchement de la guerre en Ukraine sur sol européen. Donc tout d'un coup, on prend conscience que c'est des conflits, ben oui, il y en a aussi, et qui se rapprochent aussi un peu de nous. Et là, il y a ce conflit également au Proche-Orient qui rajoute un peu une couche par rapport à ce problème-là. Il ne faut pas oublier que pendant toute l'histoire du christianisme, nous avons eu des épisodes sanglants, notamment à ses débuts, dans un contexte géopolitique, de l'Antiquité dominée par l'Empire romain. Le Christ a été supplicié sous le règne d'un gouverneur romain et la Jérusalem de l'époque a été détruite, ainsi que son temple, en l'an 70 de notre ère. D'après la tradition, il est dit aussi que le fondateur de l'Église, l'apôtre Pierre, est mort en martyr, à l'endroit même où se trouve actuellement le Vatican. En ce même empire romain d'Occident, s'est lui-même aussi effondré sous les hordes barbares en 476 après Jésus-Christ. Et la liste n'est de loin pas exhaustive. Alors, on va essayer de regarder un petit peu dans la Bible ce qu'on nous dit par rapport à cette réalité de la guerre et un texte fameux qui nous parle de meurtre, qui nous parle d'une tragique histoire de famille, l'histoire de Caïn et Abel. Genèse 4, 3, 9. Au temps fixé, Caïn représenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande. Mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ce visage abattu ? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage ? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. » Zacharia, je m'excuse, mais ça me dérange un peu que vous parliez. Désolé, hein. Ah, vous traduisez, pardon. J'ai pas compris. D'accord, d'accord. Alors, pas de problème, aucun problème. Je pensais que, d'accord. Pas de souci, non, il n'y a aucun souci, alors, d'accord. J'ai pas compris. Oui, voilà. Je comprenais pas depuis là, je pensais que vous parliez entre vous, je sais pas. Zacharia, tu te tais maintenant. Je prends ton carnet, hein. Mais la reprise, c'est demain, c'est pas maintenant, s'il vous plaît. Bon. Voilà, non, il n'y a aucun souci. Je reprends. Heureusement que vous avez le texte, là, parce que là, je suis en train de bafouiller un peu. Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais toi, tu dois le dominer. Caïn dit à son frère Abel, « Sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis moi, le gardien de mon frère ?» C'est intéressant de noter que nous avons ici affaire à une histoire de famille, finalement, entre deux frères. Deux frères qui vont justement avoir des problèmes aussi entre eux. Quand on voit aussi certaines guerres, on s'étonne des fois de voir que ce sont des guerres fratricides, n'est-ce pas ? Et je trouve que là, on a un enseignement qui est assez parlant, en termes chrétiens, de ce qui se passe, finalement, quand on veut l'annihilation, quand on veut la destruction de son frère, en quelque sorte. Au moment de l'offrande à Dieu, ce dernier agrée l'offrande d'Abel, mais pas celle du cultivateur Caïn. Suite à sa déconvenue, Caïn reçoit cette exhortation de la part de Dieu. Alors c'est vrai qu'on peut peut-être un peu s'étonner, on se dit pourquoi est-ce que Dieu agrée donc une offrande mais pas l'autre ? Enfin, que sa volonté soit faite, qui suis-je pour critiquer le Très-Haut, on pourrait dire. Hein. Et ça aurait pu être la position de Caïn. Le Seigneur ne va pas le laisser là, il va dire « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu ?» « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Et là, on a un élément de réponse. On a quelque chose d'assez encourageant. Il y a un appel qui était donné. Il y a quand même de l'espoir aussi pour Caïn de ne pas rester sur son aigreur, sur son ressentiment, mais quelque part de dépasser ça et puis surtout de vaincre le péché qui peut le dominer. Et c'est vrai que c'est assez extraordinaire cette image d'avoir ce péché qui est comme une entité extérieure qui pourrait finalement me prendre et me causer du tort, en fait. Extérieur à moi, donc le péché comme une force un peu agissante qu'on doit maîtriser, mais qui est en nous et qui des fois peut nous déstabiliser et qu'on est appelé à maîtriser. Cela nous fait bien conscience que le mal peut agir comme un corps étranger, donc il est bien en nous. Et le tort de Caïn, c'est d'avoir laissé libre cours et d'avoir laissé finalement ce péché tapis à l'entrée de sa maison, le laisser rentrer chez lui, et puis de se laisser prendre par le ressentiment, par la jalousie, par la haine, et qui va se traduire inévitablement par un meurtre. Là, je trouve qu'on a beaucoup de clés finalement qui peuvent expliquer les relations finalement, qui peuvent être dominées et gérées aussi générées par la jalousie aussi entre les personnes. Alors, le texte suivant, c'est dans Marc 15, 1, 15. Nous avons un mauvais exemple avec Caïn, fils d'Adam directement. Hein. Donc, quand on dit que l'humanité est fils d'Adam, quelque part, ça se justifie encore plus, puisque Caïn est justement directement fils d'Adam. Nous sommes ses héritiers, nous sommes des êtres de chair, nous avons commis aussi ce péché originel, nous sommes donc dans sa position. Qu'est-ce qu'il nous fallait finalement pour nous sortir de cet engrenage de la violence où la haine engendre la haine, la violence engendre la violence. Et Dieu sait, si on n'entend pas parler autour de nous, évitons l'escalade par rapport à tout ce qui se passe. Et vous avez tout le temps cette espèce de réaction. Il y a un agresseur. Là, je parle des pays en ce moment en termes géopolitiques. Un pays qui va agresser. Puis il y a toujours l'autre pays qui va se sentir dans l'obligation de répondre à l'agression. Vous voyez un peu quelque part loi du talion. C'est-à-dire, tu me fais du tort, on va t'infliger encore plus de souffrance parce que tu nous as fait du tort. Alors, là, on a un exemple avec Jésus. On va retourner un petit peu dans la passion qui nous a occupé donc à Pâques, que j'ai appelé Jésus l'anti-Caïn, c'est-à-dire que nous avons l'homme naturel que nous sommes tous, l'homme pécheur, mais il y a aussi Jésus qui veut faire de nous une nouvelle créature, un nouvel Adam, c'est-à-dire quelque part nous régénérer. Et on a là un exemple de qu'est-ce que je fais par rapport à la violence. Alors, Caïn pense avoir été violenté. Il pense dans son esprit qu'il a subi une injustice. Alors, ce n'était pas une injustice, car encore une fois, la volonté de Dieu, si on l'a fait quelque part, elle peut avoir des choses qu'on ne comprend pas, mais qu'on comprend à la suite, à terme. Là, quelque part, donc Caïn, il a cru subir une injustice. Et donc, comment est-ce qu'il réagit par rapport à cette injustice qu'il croit avoir subie, encore une fois, qu'il croit avoir subie? Il va tuer son frère par jalousie. Là, on va avoir l'anti-Caïn, un contre-exemple parfait en Jésus-Christ. Comment est-ce que le Christ réagit? Comment est-ce qu'il se comporte face à la violence, face à la guerre? Encore une fois, il faut voir le contexte géopolitique. On n'est pas dans un moment où tout va bien, où les pays entre eux sont en paix quelque part. Il y a beaucoup de tensions, il y a un empire romain qui est très insistant, qui fait porter un joug sur Israël. Les juifs et les israéliens veulent être délivrés de ce joug, attendaient d'ailleurs un messie qui puisse délivrer Israël de ce joug romain. Donc on est dans un contexte violent, et si on regarde aussi la vie du Christ, c'est aussi une vie où il est constamment confronté à la violence verbale, physique. Marc 15, 1, 15. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes, et tout le conseil suprême. Puis, après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau, « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi !» Mais Jésus ne répondit rien. Est-ce que vous réalisez? Mais Jésus ne répondit rien. Voilà, une première façon de ne pas répliquer au mal, c'est déjà se taire. Vous voyez, déjà la violence, il y a déjà la violence verbale. On fait un conflit physique qui commence toujours par une violence verbale, quelque part. Et bien là, il ne répond pas. C'est une manière de tendre l'autre joue, mais d'une autre manière. Mais Jésus ne répondit rien. Je crois qu'il y a d'autres traductions qui parlent du silence. Il y eut un grand silence. Si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'ils demandaient. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait l'habitude. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Ils se rendaient bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Tiens, on retrouve le terme de la jalousie. Le péché qui est tapis à la porte, qui peut nous submerger et qui peut nous entraîner à faire des choses ou à commettre des l'irréparable. Quelque part là, il y a ce problème de la jalousie. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'ils leur relâchent plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, on peut s'imaginer, Pilate, il comprend vraiment rien à rien. C'est au-delà de tous ses concepts, de toute sa philosophie de vie. Il comprend rien à ce qui se passe. Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? De nouveau, ils crièrent, crucifie-le. Pilate leur disait, mais quel mal a-t-il donc fait ? Mais ils crièrent encore plus fort, crucifie-le ! Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Est-ce qu'on réalise que là, vous avez un juste, un saint, le saint de Dieu, qui est sans tâche, qui est sans défaut, qui est sans péché, il va subir l'injustice suprême. On va lui préférer un meurtrier avéré, alors que là, il n'y a aucune preuve, on n'arrive pas à prendre Jésus en défaut. Donc, clairement, là, il va subir une injustice et il va accepter d'aller au bout, jusqu'au bout de cette injustice en étant crucifié. Donc là, on a un jugement qui est injuste. Que fait le Christ ? Vous savez, quand vous avez des personnes qui cherchent à se justifier, ou quand on va à un tribunal, vous avez un avocat qui, en général, parle très très bien, qui va exercer l'art extraordinaire de la rhétorique, qui est un art qui est difficile, qui va essayer de convaincre, finalement, la partie adverse qu'il a raison. Donc on a là, déjà, à ce niveau-là, une guerre des mots, avec des personnes qui essayent d'être les plus persuasifs possibles. Eh bien là, on pourrait s'attendre, de la part du Fils de Dieu, de pouvoir avoir des mots justes, de pouvoir se défendre. On pourrait attendre aussi qu'il y ait peut-être un avocat qui le défendrait à ce moment-là. Non, Jésus oppose le silence. Et donc, il va subir l'injustice, et c'est une souffrance injuste. Alors que, c'est l'anti-Caïn, dans le sens où, finalement, chez Caïn, c'est justifié quelque part. Là, c'est une souffrance injuste. Et on va même lui préférer en fait un criminel de droit commun plutôt que lui qui a une attitude exemplaire et qui a de nombreuses reprises témoigné de son ministère et de sa pertinence. Quoi. Le texte suivant, c'est dans 1 Pierre 3, 8, 17. Quel comportement face à l'injustice ? Alors vous avez l'exemple parfait, le Christ n'a rien écrit. C'est ça qui est extraordinaire chez lui, c'est pour ça que ça en fait quelqu'un d'encore plus extraordinaire qu'un philosophe qui passe son temps à gratter un papier, qui essaye de laisser une trace par l'écrit. Mais lui, au fond, la trace qu'il va laisser, c'est uniquement son exemple de vie et ses paroles. À partir du moment où on dit que la parole, c'est Dieu, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, quelque part, cette parole-là, même si elle est prononcée comme c'est prononcé maintenant, ça reste. Ça va traverser les siècles, ça va venir jusqu'à nous, les cieux et la terre ne passeront pas, mais ma parole demeure éternellement, quelque part. Une parole, ce n'est pas un écrit, n'est-ce pas ? Donc le Christ, c'est l'incarnation du Verbe, c'est le nouvel Adam, c'est une personne sans péché, qui va le prouver, pas par des paroles, pas par des concepts philosophiques, pas par des concepts théologiques, mais à un moment donné, quand il y a un paralytique qui est devant lui, va, prends ton lit et marche, va, lève-toi et marche. Voilà ce qu'il va faire. C'est pas des théories, c'est une pratique en marche. Après, vous avez les théologiens qui vont venir, et un des premiers, ça va être Pierre, qui va reprendre, mais qui va se baser sur un vécu, qui va se baser sur la vie de Jésus pour en venir à son enseignement. C'est ça qui est magnifique. On n'a pas affaire à quelqu'un qui écrit une théorie, un philosophe. On a affaire à quelqu'un qui vit pleinement ce qu'il dit. Et c'est vrai qu'on est appelé à ça aussi. Hein. C'est appelé à cette cohérence. Moi, ça me parle. C'est pas facile, vous savez. Enfin, je veux dire, certainement, vous savez. Je veux dire, être chrétien dans ce monde, c'est pas facile. Alors, c'est facile de proclamer, de parler, etc. Faut-il encore le vivre au quotidien ? Et là, c'est là qu'on est appelé. On est appelé sur ce terrain-là. C'est quand je suis agressé, comment je réagis ? Quand je subis une injustice, comment je réagis ? Est-ce que j'ai vraiment toujours cette image et cette vision du Christ par rapport à tout ce qu'il a vécu et par rapport à tout ce qu'il a fait ? Voilà, donc ça, c'est aussi important, cette cohérence. Et c'est grâce à cette cohérence qu'on peut avoir de l'impact aussi sur les autres. Pas seulement les mots. En fait, je dirais que c'est surtout la cohérence. Et ensuite, il y a les mots qui viennent se mettre, qui viennent appuyer cette cohérence de vie. 1 Pierre 3, 8, 17. Enfin, Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal. On voit bien que le Christ, dans ce qu'on a lu, dans sa pratique, il n'a pas rendu le mal pour le mal. Injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Père, pardonne-leur sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pardonné à son agresseur, il a pardonné à son ennemi, afin de le faire rentrer dans la vie. Il donne sa vie pour l'autre par amour, et il ne va pas condamner, il ne va pas juger. C'est grâce à cet amour que moi, qui suis pécheur, je suis aussi sanctifié et pardonné. C'est grâce à ce que le Christ a fait sur la croix. C'est aussi le cas de toutes celles et ceux qui sont ici ce matin. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Et c'est là où ça devient très très intéressant. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. Ça fait aussi penser aux béatitudes. Heureux êtes-vous si on dit toutes sortes de choses à cause de moi. Vous serez heureux quelque part. Donc ce n'est pas un bonheur tel qu'on pourrait l'imaginer aujourd'hui, n'est-ce pas? Sans anicroche et sans difficulté. N'ayez de aucune crainte à ceux qui vous agressent. Ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ Jésus, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Est-ce que les gens ne sont pas couverts de confusion quand le Christ ne réagit pas à l'insulte, quand il ne réagit pas à toute cette injustice? Et donc, quelque part, c'est ça. On est tous, toutes les personnes qui sont autour, on est confus, quelque part, face à une réaction dont on n'a pas du tout l'habitude. Surtout dans la mentalité romaine, dans la mentalité grecque, il ne faut surtout pas céder, il faut toujours montrer qu'on est fort. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Un autre texte qui concerne aussi cette notion de souffrance dans l'injustice, aux Éphésiens 6, versets 10 à 12. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Eh bien, en fait, on pourrait dire au commencement est la guerre, et quelque part, nous sommes en guerre. Simplement, Paul nous appelle à un autre combat. C'est-à-dire qu'on n'a plus à combattre contre la chair ni le sang. On n'a plus à se venger, à tuer, à détruire le corps. C'est un combat spirituel. Là, on a tout. C'est ça, parce que ce n'est pas rester complètement passif et puis, à la limite, en restant... là, il y a une part... On est appelé à être actif. On est appelé à dominer aussi nos mauvais penchants. On est appelé à combattre au jour le jour, finalement, avec ces armes de l'esprit, pour combattre non pas contre des êtres humains, en s'envoyant des missiles sur la figure, non, c'est plutôt combattre contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc le combat de la foi, c'est-à-dire quand on a ce péché qui est tapis à notre porte, c'est arriver à lui dire non. Ok, ça fait partie de mon Adam, c'est ma chair, mais je dis non à ce péché qui est tapis à ma porte et qui cherche à rentrer chez moi. Je dis non. Tu restes dehors. Quelque part, Dieu peut nous donner les moyens de résister contre ce péché qui cherche sans arrêt. C'est vrai que Satan veille aussi. Hein, et donc, il est là. Enfin, il n'est pas tout puissant, Dieu merci. Mais quelque part, il cherche à nous déstabiliser. Et donc, on est appelé à combattre. Bah oui, on est appelé au combat. On est appelé à rester éveillé. Quand le Christ dit que quand il reviendra, il espère qu'on ne va pas être endormi quelque part, bah, ça fait partie de ce combat. Soyons vigilants, soyons dans la prière, soyons et combattons ce bon combat de la foi pour rester réveillés quand il reviendra. Donc la promesse du vrai bonheur. Un vrai bonheur, c'est de trouver la paix, la paix en Christ, cette paix qui dépasse toute intelligence. Ça veut dire que même dans les difficultés, même dans les souffrances, quelque part, je peux rester en paix. Je crois que c'est un merveilleux message aussi, c'est aussi une promesse du vrai, et c'est, je pense que c'est le seul vrai bonheur finalement, parce que les aléas de la vie, quelque part, font qu'on va toujours subir des agressions, que ce soit des agressions au niveau de notre santé, que ce soit des agressions autour de nous, que ce soit des guerres, que ce soit des maladies, etc., et j'en passe. Quelque part, rester enraciné dans la parole, ça nous permet de résister à ces problèmes finalement. Et donc, on peut souffrir, mais quand même garder cette paix. Et c'est paradoxal, en combattant ce bon combat. En conclusion, ne pas se laisser dominer par le péché, rechercher la paix en Christ, ne pas répondre à l'agression par la vengeance. Vous voyez, on a tout un arsenal, finalement, là, du parfait soldat chrétien pour nous aider. Qu'est-ce que je fais face à l'agression, Donc, pas chercher à répondre à l'agression par la vengeance. À développer cette paix intérieure et son amour du prochain qui sont ma meilleure contribution à la vraie paix en ce monde. Alors c'est ça que j'aimerais dire. Quelque part, on se dit, mais bon, quelle horreur tout ce qui se passe dans le monde. Quelle horreur ces injustices, quelle horreur ces femmes tuées, massacrées, ces exactions faites à des enfants, que ce soit à Gaza, que ce soit en Ukraine ou ailleurs. Qu'est-ce que je fais là-dedans ? Souvent, un sentiment d'impuissance, comme une personne qui est paralysée et qui voit quelque chose autour d'elle et qui ne peut pas agir. Moi, souvent, on a ce sentiment d'impuissance, en quelque sorte. Mais on peut agir déjà, c'est-à-dire que si moi-même j'arrive à améliorer mon comportement, si moi-même j'arrive à changer mon attitude, quelque part, je contribue autour de moi, déjà dans mon petit cercle. C'est une petite goutte d'eau qui va ensuite faire une rivière, faire un fleuve, et qui va aussi être contagieux. Quelque part, c'est comme ça qu'on peut changer le monde, et je suis convaincu, et c'est là où, en préparant ce message, je me dis, mais oui, là, c'est une perle, là, c'est merveilleux. C'est-à-dire que si on se réforme soi-même, si déjà on est victorieux avec ce combat spirituel, on arrive à vivre un petit peu à l'image du Christ, on va répandre cette paix autour de nous, et ça va être la meilleure contribution à la paix dans ce monde. Je pense que c'est même encore plus valable, plus important que d'être dépêché par Médecins Sans Frontières, pour aller sur le terrain des personnes qui souffrent et qui sont blessées. C'est extraordinaire, ça aussi, de le faire, bien entendu. Mais je pense qu'on fait déjà quelque chose, à notre niveau. On fait déjà quelque chose d'extraordinaire. Si on a cet amour du prochain, si on partage ça, si on est en paix avec soi-même, on répand cette paix, et je pense que c'est de cette vraie paix-là dont le monde a véritablement besoin. Et donc, on va terminer. J'espère que je n'ai pas été trop long. On va terminer par cette citation. Donc Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Le Christ, il arrive à la fin de son ministère terrestre. Il va bientôt aller auprès de son Père. Il vous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je ne montre pas les muscles. Je ne vais pas déployer des arsenaux militaires ou des missiles pour essayer de dissuader la puissance étrangère de m'attaquer. Non, je ne vous donne pas cette paix-là. Si vous attendez un Messie comme celui-là, ce n'est pas moi. Je suis le roi des Juifs, mais pas comme vous l'entendez, vous. Je ne suis pas ce roi qui va prendre des armes et qui va vous libérer du joug romain. Je ne suis pas ce roi qui va libérer Israël de l'Iran. Je suis pas ce roi-là, je suis quelqu'un d'autre. Si vous attendez ce roi-là, vous allez subir une déconvenue. Ça ne va pas le faire. Je vous donne cette paix, mais pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. On est encouragé à garder ce cœur et garder ce calme et cette paix. Encore une fois, cette paix qui dépasse toute intelligence. On a tout dans cet envoi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point.